Et c'est l'heure de votre journal, Frédéric Barrère.
Bonjour à tous. Un drame au Mali. Un soldat français tué dans une attaque terroriste du camp militaire de Barkhane. Le brigadier Alexandre Martin, 24 ans, membre du 54e régiment d'artillerie de Hyères, a perdu la vie lors d'une attaque au mortier. Emmanuel Macron fait part de sa très vive émotion. Une terrible nouvelle, indique Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Nathanaël Charbonnier, dans un instant. L'épidémie de coronavirus et le nombre de contaminations toujours très élevées en France. Le pass vaccinal entre en vigueur demain, lundi. Il remplace le pass sanitaire. Invité de ce journal, l'épidémiologiste Jonathan Roux. Et nous irons également à Wuhan, en Chine, où il y a tout juste 2 ans, le monde basculait dans la pandémie. Dans ce journal également, des discussions entre talibans et occidentaux en Norvège sur l'urgence humanitaire en Afghanistan. Et puis en sport, en tennis, à l'Open d'Australie, qualification de Gaël Monfils pour les quarts de finale. Élimination d'Adrian Manarino. Le temps calme et gris au nord. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
On l'a appris ce matin, la mort d'un soldat français au Mali. Il a été tué hier dans une attaque au mortier contre le camp militaire de Barkhane, à Gao, dans le nord-est du pays. Le président de la République, Emmanuel Macron, fait part ce matin dans un communiqué de sa très vive émotion. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
Alors Nathanaël, le soldat, le brigadier, avait 24 ans.
Oui, il s'appelait Alexandre Martin. Il était brigadier issu du 54e régiment d'artillerie de Hyères. Et il est mort samedi dans la ville de Gao. Mais attention, il n'est pas mort n'importe où. Il n'est pas mort comme souvent en mission en plein désert à la poursuite de djihadistes, victimes d'une mine ou d'une balle. Non, il est décédé alors qu'il se trouvait dans le camp militaire français où sont tombés plusieurs obus, des tirs provenant de 6 à 7 kilomètres à l'est de la ville. Il faut savoir que ce camp, c'est une petite ville dans la ville de Gao. C'est le bastion militaire de Barkhane avec plusieurs milliers d'hommes qui vivent là. Le camp de Gao, c'est un hôpital, des cantines, une piste d'atterrissage pour les avions. Or, attaquer ce camp et y faire une victime, c'est un acte de guerre très symbolique. C'est attaquer la forteresse française. Et cette attaque meurtrière intervient à un moment particulier. On sait que la junte au pouvoir ne veut plus de la France. On sait que les paramilitaires russes de Wagner se déploient aussi dans le pays. Et même si Emmanuel Macron confirme la détermination de la France à rester, la question que l'on peut se poser est de savoir jusqu'à quand.
Nathanaël Charbonnier, la réaction de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, invité juste avant ce journal dans Questions politiques sur France Inter.
C'est une terrible nouvelle et je veux avoir évidemment un mot pour lui, pour le brigadier Alexandre Martin, et un mot évidemment de solidarité avec sa famille, avec ses frères d'armes. Vous savez que nous sommes engagés au Mali pour lutter contre le terrorisme. Et lutter contre le terrorisme sur place, c'est aussi protéger les Français chez nous en France, puisque nous savons, c'est pas le cas d'ailleurs uniquement du Mali, on l'a vu dans d'autres régions du monde, que des projets terroristes qui se déroulent sur notre territoire ont parfois été préparés, organisés depuis l'étranger. Et donc la lutte contre le terrorisme à l'international est aussi une priorité pour protéger la France. Et donc évidemment qu'on doit continuer à lutter contre le terrorisme en adaptant notre présence. D'ailleurs, on a rendu un certain nombre de bases. Je pense à la base de Kidal, à la base de Thessalite, qui ont été rendues. On réduit notre présence sur place, mais on l'adapte, encore une fois, en lien avec nos partenaires européens.
Gabriel Attal, dans Question politique, et puis au Burkina Faso, voisin du Mali. Des tirs ont été entendus dans plusieurs casernes, et notamment dans 3 casernes de la capitale Ouagadougou. Le gouvernement malien reconnaît les coups de feu, mais dément un coup d'État, une prise de pouvoir par l'armée. En Syrie également, il y a des combats acharnés entre les forces kurdes soutenues par la coalition internationale et les djihadistes de Daesh pour le 4e jour consécutif. Ces affrontements déclenchés jeudi soir par une attaque du groupe État islamique contre une prison pour libérer leurs camarades ont fait, selon un dernier bilan ce matin, plus de 120 morts. La pandémie de coronavirus maintenant, et il y a tout juste 2 ans, le 23 janvier 2020, le monde basculait dans cette pandémie presque par surprise et avec angoisse. On se souvient notamment de la fermeture spectaculaire de la ville de Wuhan en Chine, 13 millions d'habitants, totalement confinés en seulement quelques heures, cela ne s'était jamais vu. 2 ans après, le monde n'est pas tiré d'affaire. En Chine, à 12 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver, Pékin annonce que la ville va dépister les habitants d'un quartier entier après l'apparition d'un premier cas du variant Omicron. De son côté, La ville de Wuhan, où est parti le virus, a retrouvé une vie presque normale, mais elle est toujours en convalescence économique. Dans cette ville très dynamique, les petites entreprises notamment ont du mal à remonter la pente. Elles restent encore fragiles, comme l'a constaté notre correspondant en Chine, Sébastien Berriot.
Au 41e étage de la tour qui donne sur les bords du fleuve Yangtze, on est accueilli à la sortie de l'ascenseur en musique. Dans cette école de danse qui forme des filles âgées de 3 à 12 ans, l'activité a du mal à reprendre. Deux ans après le confinement, le nombre d'élèves atteint péniblement les 170, loin de l'effectif normal de 240. Au fond du couloir, l'ambiance est encore plus morose dans ce restaurant de luxe. Le patron Jerry accueille en ce moment une cinquantaine de clients par semaine contre une centaine avant l'épidémie.
J'ai l'impression que depuis deux ans, la situation économique générale n'est pas aussi bonne qu'avant. Je dirige un restaurant français haut de gamme. Avant l'épidémie, de nombreux consommateurs venaient dîner et dépensaient de l'argent chez nous. Mais depuis deux ans, le nombre de clients a diminué. Les gens n'ont plus beaucoup d'argent de poche depuis le déclenchement de l'épidémie. La situation sanitaire à Wuhan a un impact évident sur l'économie.
Dans ce restaurant, comme dans beaucoup de magasins de Wuhan, la consommation n'a pas repris comme avant, en raison notamment de l'augmentation des prix. Et puis le confinement a aussi eu pour effet de renforcer la vente en ligne au détriment des commerces traditionnels. Wuhan, Sébastien Berriot, France Inter.
En France, l'épidémie est toujours très forte et les contaminations toujours très élevées. Près de 390 000 nouveaux cas détectés hier, dont Marlène Schiappa, la ministre chargée de la citoyenneté, positive au Covid et qui continue d'assurer ses fonctions à distance. Le pass vaccinal va entrer en vigueur demain, avant une levée progressive des restrictions à partir du 2 février. Invité de ce journal, Jonathan Roux, épidémiologiste à l'école des hautes études en santé publique de Rennes. Bonjour Jonathan Roux.
Bonjour.
Alors le pass vaccinal entre en vigueur demain, il remplace donc le pass sanitaire pour lutter contre l'épidémie et préserver l'hôpital. Cette mesure est essentielle selon vous ?
Oui, le gouvernement continue finalement sur son envie de continuer à vacciner la population au maximum et le pass vaccinal a pour but d'augmenter cette couverture vaccinale mais également de protéger les personnes qui ne sont pas vaccinées puisque en n'ayant pas accès à des lieux dans lesquels le risque de contamination est élevé, elles auront donc moins de risques d'aller à l'hôpital.
Et pour ce qui concerne les mesures de restriction dont on a annoncé, Jean Castex, la levée progressive à partir du 2 février, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est trop tôt ? Est-ce que c'est dans le bon timing selon vous ?
Alors on voit que actuellement l'épidémie, on a atteint le pic, semble-t-il, en réanimation. On a toujours un nombre de contaminations qui est très élevé. Donc il faudrait attendre que le pic soit passé, au moins au terme des contaminations. Ce qui semblerait pouvoir être le cas quand les premières mesures seront levées au 2 février. Et surtout, on voit que le pass vaccinal va pouvoir venir en complément de la levée, par exemple, des jauges dans les lieux publics. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'on gardera quand même les gestes barrières classiques, comme le port du masque en intérieur, qui reste très important pour lutter contre la propagation du virus.
Le gouvernement et Gabriel Attal, le porte-parole, voient des raisons d'être optimistes et cette décrue nette du variant Delta. Vous êtes aussi plutôt optimiste ?
Alors oui, on voit que le variant Delta représente maintenant plus que très peu, quelques milliers de cas en France, et c'est le variant Omicron qui représente la grande majorité des cas. C'est un variant qui, on le sait, est moins dangereux, et on sait que le vaccin reste très efficace contre les formes graves pour ce variant. Donc ce variant reste quand même dangereux pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, mais on voit qu'on atteint des niveaux de contamination qui n'ont jamais été vus, avec plus de 300 000 personnes, mais on voit que la pression à l'hôpital, finalement, reste acceptable, mais il faut encore attendre un peu que les réanimations finalement désaturent, parce qu'on est tout de même à presque 4000 personnes en réanimation, et il faudrait que ce nombre diminue quand même pour pouvoir retourner à une vie normale.
Jonathan Roux, en Europe, on voit la Grande-Bretagne qui met fin la semaine prochaine à la plupart des restrictions, l'Espagne qui veut traiter le Covid comme une maladie endémique. On parle d'immunité collective en France, qu'elle est proche avec la vaccination, avec l'immunité à force d'être contaminé, des personnes qui ont déjà été contaminées. Est-ce que on s'achemine effectivement vers une maladie, un coronavirus endémique ?
Alors oui, c'est ce que tout le monde espère et c'est ce qui semble se produire avec le variant Omicron. Grâce à la vaccination et grâce à l'immunité, comme vous le disiez, naturelle acquise par le fait d'être contaminé par ce variant, les gens développent leur immunité face à ce virus et on voit sans doute que le variant qu'on va continuer à circuler au niveau mondial et qu'il reviendra vraisemblablement au cours de l'année, mais les gens ayant déjà été confrontés à ce virus feront sans doute des formes avec des symptômes plus faibles, comme finalement on fait avec une grippe classique, mais on pourra faire face à ces nouvelles nouvelles vagues de contamination, puisque normalement la pression à l'hôpital sera moins forte vu que les gens seront protégés naturellement ou par la vaccination, bien évidemment si on reste avec le variant actuel.
Jonathan Roux, une dernière question en quelques secondes. Qu'est-ce qu'on a appris en nos ans? Qu'est-ce que la science nous apprend? Qu'une épidémie prend toujours fin?
Alors, la science nous apprend qu'une épidémie, il y a plusieurs façons pour qu'elle disparaisse. Soit elle peut prendre fin naturellement, mais ce qui ne semble pas être le cas avec ce virus malheureusement. Autrement, on peut vraiment se battre contre cette épidémie grâce notamment à la vaccination. C'est ce qui a été fait par exemple contre la variole qui a été éradiquée au niveau mondial. Et donc on voit surtout que la médecine permet de protéger les populations avec le vaccin et maintenant on va même pouvoir guérir ou en tout cas empêcher de faire des formes graves grâce aux nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché.
Qui arrivent
et
bientôt.
Donc on voit qu'on va pouvoir réussir à mieux vivre et à surtout vivre avec ce virus, chose que l'on espère tous pouvoir faire bientôt.
Jonathan Roux, merci beaucoup, épidémiologiste à l'école des hautes études en santé publique de Rennes. Merci à vous. Et 48 heures avant la mise en place du pass vaccinal, les antipass et antivax ont manifesté hier en France, une mobilisation en baisse et une agression à Perpignan. Le député LREM Romain Gros a été violemment pris à partie par des dizaines de manifestants qui ont attaqué sa permanence. Plusieurs vidéos des faits circulent sur les réseaux sociaux. Armel Balogog.
On y voit des dizaines de personnes, pancartes à la main devant les bureaux du député. Elles tapent sur les vitres. Romain Gros sort pour parler aux antipasses. Les insultes fusent. Plusieurs manifestants s'approchent, lui crient dessus.
Oh, tu l'as voté le pass ! Tu l'as voté le pass ! Mais oh, je te parle ! Oh, oh, je te parle, vacciné ! Parlons-en ! Parlons-en !
Pas de réponse du député qui pourtant n'a pas voté pour le pass vaccinal. Il n'a pas participé au vote du tout, même selon le site de l'Assemblée nationale. Même s'il avait bien voté pour le pass sanitaire en mai dernier, Romain Gros est bousculé. On ne le voit pas sur les vidéos, mais il dit avoir reçu un coup de poing au menton. Un voisin sort pour s'interposer, mais il est frappé aussi. Finalement, l'élu parvient à s'exfiltrer. Il se réfugie à l'étage de sa permanence. Romain Gros dénonce une tentative d'intimidation. « Rien ne m'empêchera de continuer à agir au service des Perpignanais », clame-t-il sur Twitter. Le député compte bien déposer plainte.
Armel Balogok, en bref Jean-Jacques Bourdin, visé par une enquête pour agression sexuelle, est écarté temporairement de l'antenne sur BFM TV et RMC selon un communiqué ce matin du groupe Altice à l'étranger en Afghanistan où la situation humanitaire est catastrophique avec des millions de personnes menacées de famine. Des discussions s'ouvrent à Oslo entre une délégation de talibans et le gouvernement norvégien avec des occidentaux. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour Frédéric.
Des discussions sur l'urgence humanitaire.
Oui, avec cette menace de famine qui pèse sur plus de la moitié de la population, jusqu'à l'arrivée des talibans au pouvoir, l'aide internationale finançait près de 80% du budget du pays. C'est dire si son tarissement a des conséquences gravissimes, d'autant que Washington a également gelé les avoirs de la Banque centrale afghane, quelques 9,5 milliards de dollars. Les salaires ne sont plus payés, le chômage a explosé, mais l'aide était aussi vitale pour une population déplacée par les violences qui ont fortement perturbé les récoltes, affectée en outre par une forte sécheresse. Urgence humanitaire donc, Frédéric. Cette réunion ne vaut pas reconnaissance, martèlent les chancelleries occidentales. Mais le malaise est là. C'est la première fois depuis leur prise de pouvoir que des dirigeants talibans sont accueillis en Europe. Et à Oslo, autour de la table, va notamment prendre place l'un des chefs du réseau Akhani, qui a mené plusieurs attentats en Afghanistan et qui est considéré comme un groupe terroriste par les États-Unis. Un régime qui, on le sait, n'a eu de cesse d'attaquer les droits des femmes depuis cet été. Les talibans doivent justement rencontrer, dès aujourd'hui à Oslo, des représentantes de la société civile afghane, dont des militantes féministes et des journalistes, avant les diplomates occidentaux demain.
Marie-Pierre Véraud, merci. La crise en Ukraine et cette accusation hier soir du Royaume-Uni dans un communiqué abrasif. La chef de la diplomatie britannique, Liz Truss, indique que la Russie cherche à installer un dirigeant pro-russe à Kiev et envisage d'occuper l'Ukraine. À Londres, Nina Guérino de la mairie.
D'après les services de renseignement britanniques, le président russe Vladimir Poutine s'apprêterait à installer l'ancien député pro-Kremlin Yevgeny Mouraïev à la tête de l'Ukraine. Quatre hommes d'affaires ukrainiens collaboreraient avec des espions russes, accusés eux de fomenter une attaque contre le pays. Le groupe, composé d'anciens politiciens proches du pouvoir russe, est connu sous le nom de The Family, la famille en français. Ces quatre hommes sont soupçonnés d'avoir volé jusqu'à 40 milliards de dollars dans les coffres de l'État ukrainien avant la destitution du président pro-russe Viktor Yanukovych en 2014. Pour le ministre de la Justice britannique, Dominic Raab, la réponse envers la Russie doit être ferme.
Il est très clair que non seulement il y a un regroupement des forces militaires russes à la frontière, mais aussi des menaces envers la démocratie et l'intégrité de l'Ukraine. La Russie s'expose à de graves conséquences si elle tente une invasion, mais aussi si elle essaie d'instaurer un régime fantoche.
La menace est prise très au sérieux outre-Manche. La semaine dernière, les Britanniques ont livré 2000 missiles et envoyé du personnel militaire en Ukraine pour aider le pays à se défendre. Cette décision a provoqué la colère de la Russie. En cas d'invasion ou tentative de renversement, le Royaume-Uni l'assure, il mettra en place des sanctions économiques. Nina Guérino de la Mairie, Londres, France Inter.
Le sport avec le tennis et l'Open d'Australie. La victoire ce matin de Gaël Monfils face au Serbe Kecmanovic. Bonjour Fabrice Abgral.
Bonjour.
Gaël Monfils a renversé son adversaire et il se qualifie pour les quarts de finale.
En effet, en 3-7-7-5-7-6-6-3, Gaël Monfils qui est actuellement au sommet de son art. Le numéro 1 français l'a emporté avec autorité et avec l'efficacité d'un joueur actuellement en pleine confiance. Gaël Monfils n'a toujours pas perdu le moindre set dans ce tournoi. Gaël Monfils est passé en force aujourd'hui, prenant parfois d'énormes risques, mais des risques payants. Il a réussi 54 coups gagnants dans cette rencontre, pas totalement maîtrisée, c'est vrai, mais très spectaculaire. Gaël Monfils a été souvent bousculé par Kecmanovic, le 77e mondial, mais le numéro 1 français n'a jamais paniqué. Il a toujours su se ressaisir. Gaël Monfils affiche un niveau de jeu très impressionnant. Il a multiplié les fulgurances. Il joue parfois comme dans un rêve. Gaël Monfils disputera son deuxième quart de finale à Melbourne après 2016 et le dixième en Grand Chelem. Et il affrontera mardi en quart de finale l'Italien Matteo Berrettini.
Alors, autre rencontre, Fabrice, dans le tableau français. Adrian Manarino a lui été éliminé ce matin, mais il faut dire qu'il était opposé à Rafael Nadal.
Oui, éliminé en 3-7, 7-6-6-2-6-2, déception et frustration pour Adrian Manarino. La déception, c'est d'avoir manqué l'occasion d'atteindre son premier quart de finale en Grand Chelem, et la frustration de ne pas avoir pu défendre ses chances à la loyale en raison d'une blessure aux adducteurs. Adrian Manarino était diminué dans ses déplacements et ses appuis. Il n'était pas en mesure de rivaliser dans les deux derniers sets, laissant Nadal l'emporter au terme d'un match de 2h43. Frustration d'autant plus grande qu'Adrian Manarino a tenu tête à Rafael Nadal dans le premier set, conclu au tie-break sur le score phénoménal de 16-14, un jeu décisif dantesque au cours duquel Manarino s'est procuré 4 balles de set, mais il n'en a concrétisé aucune, à un tie-break qui a duré 28 minutes. Mais c'est durant ce jeu décisif que Manarino s'est blessé aux adducteurs. Dès lors, il n'y a plus eu de match. Nadal disputera son 45e quart de finale en Grand Chelem, le 14e à Melbourne.
Merci Fabrice Abgral. Alors, on a parlé de combat du siècle, un choc remporté cette nuit en Californie par le Camerounais Ngannou. Francis Ngannou conserve son titre de champion du monde UFC, de MMA, les arts martiaux mixtes. Il a battu le Français Cyril Gane par décision unanime des juges. Les arts martiaux mixtes restent un sport méconnu en France, où ils ont été légalisés il y a seulement 2 ans. Et l'événement qui a eu lieu la nuit dernière à Anaheim, près de Los Angeles, va sans doute aider ce sport à gagner en popularité. En tout cas, le Français Cyril Gane affrontait le Camerounais Ngannou, ancien SDF à Paris, et il était devenu maître du chaos aux États-Unis.
Francis Ngannou avait annoncé un chaos rapide, après tout c'est sa spécialité. La victoire lui a demandé plus d'efforts que prévu, en partie à cause de genoux douloureux. Mais au bout de 5 rounds accrochés contre le Français Cyril Gane, le Camerounais a conservé sa ceinture de champion du monde.
C'est vrai que je ne l'ai pas mis KO, mais en même temps j'ai un peu déçu des gens qui espéraient que j'allais perdre si j'allais à la décision. Je les ai prouvé le contraire. J'étais le champion, je suis le champion et je reste le champion. Indépendamment de tout ce qu'on raconte, au final, le boss... c'est moi et je l'ai prouvé ce soir.
Le poids lourd parle ainsi parce qu'il a des relations très fraîches avec l'UFC. La puissante organisation d'arts martiaux mixtes aurait peut-être préféré voir Gane l'emporter, alors que la France, marché naissant, a légalisé les arts martiaux mixtes il y a seulement 2 ans. Mais le Français, invaincu jusqu'ici, a reconnu la supériorité de son adversaire.
Sa puissance, ce n'était pas une surprise, mais il sait vraiment s'en servir. Je suis déçu, j'aurais dû en faire plus. J'ai senti les gens derrière moi, alors je suis un peu triste pour eux.
Gane rêve d'une revanche à Paris. L'avenir incertain de Ngannou rend l'hypothèse peu probable. Le Camerounais se verrait bien sur un ring de boxe plutôt que dans l'octogone. Anaheim, Loïc Pierre pour France Inter.
Voilà, Francis Ngannou qui conserve son titre de champion du monde UFC.